La particularité de la société de pêche La Truite du Haut-Verdon réside dans la gestion d'un lot de pêche des sources de cette rivière jusqu'au lac de Castillon. François-Jean Guérin, vice-président de La Truite du Haut-Verdon, évoque notamment l'évolution en faveur des milieux aquatiques par la conservation du patrimoine piscicole, le retour aux espèces indigènes et la restauration de la biodiversité. Je vous propose d'écouter François-Jean Guérin.
La société de pêche La Truite du Haut-Verdon a changé un petit peu d'orientation depuis que la nouvelle présidence est portée par Benjamin Isouard, qui a choisi avec son bureau d'avoir une gestion de nos rivières qui soit beaucoup plus portée sur la gestion patrimoniale au niveau piscicole, c'est-à-dire s'appuyer sur les espèces et les poissons qui sont présents dans la rivière depuis très longtemps, en éloignant tout ce qui est exogène, tout ce qui est introduit, c'est-à-dire des truites de pisciculture, des espèces de poissons qui n'y étaient pas avant.
Et c'est-à-dire vous les éliminez ?
Non, mais c'est très intéressant de savoir qu'une espèce qui est indigène, c'est-à-dire présente depuis très longtemps sur le territoire, a développé des capacités d'adaptation qui la mettent en position de force par rapport à des espèces ou à des individus qui n'étaient pas présents sur le territoire avant. Par exemple, très concret, la truite fario, qui est en fait le poisson emblématique de nos rivières de montagne, la truite fario est déclinée en plusieurs sous-espèces qui sont des truites de différentes origines. La truite fario méditerranéenne a un type génétique particulier. La truite fario, par exemple, du nord de l'Europe, a un type génétique différent. Et ainsi, on peut décliner carrément dans les bassins versants différents types de truites. Et il se trouve qu'on a introduit à certaines époques des truites qui ne faisaient pas partie du patrimoine local. Et ces truites-là, dans les études génétiques modernes, actuelles, il se trouve que quand il n'y a pas d'introduction répétée, maintenue, actuelle, elles régressent. Ça veut dire que la souche locale prend toujours le dessus parce qu'elle est mieux adaptée. Donc il suffit de ne plus introduire de poissons pour de nouveau retrouver une population identique à l'origine.
À quoi est dû le fait qu'on introduit d'autres populations ?
Alors c'était la volonté des pêcheurs qui, à une certaine époque, n'avaient pas la maîtrise de certaines connaissances scientifiques et ils pensaient que pour pouvoir avoir plus de poissons dans les rivières, il suffisait d'en mettre plus. Or, les truites se débrouillent très bien toutes seules en se reproduisant et en s'adaptant au niveau de la masse de poissons dans une rivière par rapport à la ressource et aux possibilités d'hébergement du milieu. Donc, il suffit de laisser faire la nature et de l'aider en préservant les milieux de toute pollution ou de tout aménagement qui serait nuisible à ces populations de poissons.
Comment vous arrivez à maîtriser le surcroît de pêche ?
Alors, c'est intéressant. C'est presque, je dirais, la question qui revient toujours quand il y a une action de prélèvement dans une rivière. Un pêcheur peut aller à la pêche pour plusieurs raisons. La principale, je crois que c'est pour s'oxygéner l'esprit, déjà. Et puis, la présence de l'eau, tous les pêcheurs vous le diront, c'est très particulier, c'est apaisant. C'est une des rares activités qui nous permet d'oublier tous ces problèmes. Quand on est à la pêche, la présence de l'eau, le bruit de l'eau, la vision de l'eau en mouvement, le fait qu'on essaye de capturer un poisson, donc on doit être concentré et à 100% dans son action de pêche, fait que vraiment on oublie tout le reste.
C'est une méditation en quelque sorte.
Complètement. Alors beaucoup de pêcheurs n'y pensent pas parce que tout simplement ils le font de façon naturelle, mais oui, c'est une méditation. Et c'est en cela que c'est un loisir, je dirais, moderne. Pour répondre à la question de comment une rivière peut rester équilibrée quand on prend du poisson dans la rivière, c'est très simple. D'abord, on prend des poissons de façon modérée. Il y a des quotas qui sont fixés par jour selon les parcours. Et beaucoup de pêcheurs maintenant pratiquent la relâche du poisson. C'est-à-dire qu'on pêche avec des systèmes d'hameçons qui permettent de ne pas blesser le poisson et de le relâcher dans de très bonnes conditions. Et ensuite, pour ceux qui veulent quand même manger quelques truites, et c'est tout à fait honorable et c'est à encourager quand même, de façon modérée, comme tout ce qu'il y a de bon, c'est possible dans la mesure où la rivière va produire une biomasse qui va correspondre à la productivité du milieu. Donc une rivière va par exemple produire pour une certaine surface, en général on parle d'hectares ou de mètres carrés, une certaine quantité de poissons. Si vous enlevez un certain pourcentage, mettons 10% de cette masse de poissons, naturellement, la rivière va produire de nouveau 10% de poissons supplémentaires qui prendront la place de ceux que vous avez enlevés. Si vous n'enlevez rien, les cycles vont s'auto-réguler et les pertes seront juste compensées par les naissances chaque année. Mais il y aura peu de poissons qui arriveront à l'âge adulte parce qu'il n'y aura pas de la place pour tout le monde. Donc il y aura une concurrence entre les poissons. Le pêcheur ne fait rien de plus que de participer à cette concurrence naturelle.
Est-ce qu'il y a du braconnage ?
Alors c'est un problème qui se posait de façon un petit peu récurrente il y a 20-30 ans, parce que les rivières étaient peu surveillées et qu'il y avait une réelle culture dans nos territoires de montagne de prélèvement de poissons pour les amener à la table le week-end, le dimanche ou pendant les fêtes, en toute saison. Ça a complètement disparu. D'abord parce qu'il y a une certaine conscience qui est apparue chez les pêcheurs, une conscience qui s'accompagne d'une certaine responsabilité par rapport à la gestion de ces milieux. Et de plus, les choses sont bien faites, la garderie, que ce soit à travers l'ONEMA, c'est-à-dire la police de l'environnement, que ce soit par les gardes-pêche particuliers des sociétés de pêche, nous-mêmes nous en avons deux sur le territoire, et que ce soit aussi les membres des associations de pêcheurs qui font la police entre eux, de façon à éviter les débordements, car on a tous pris conscience de la valeur inestimable de ce qu'on peut encore avoir dans nos rivières.
La connaissance s'est peut-être accrue scientifiquement, non ?
Alors, c'est à deux niveaux. D'abord au niveau scientifique, parce qu'on se pose beaucoup de questions, et puis ça fait partie de notre époque, qu'il y a de plus en plus de moyens scientifiques pour arriver à élucider certains mystères, et la rivière en porte beaucoup. On a déjà accès à beaucoup plus d'études avec des moyens beaucoup plus importants qui nous permettent de comprendre le fonctionnement de la rivière. Mais également, au niveau des pêcheurs, il y a vraiment un changement d'état d'esprit. Les pêcheurs, qui avant avaient beaucoup plus en tête de prélever des gros poissons en quantité, ils ont maintenant d'autres objectifs. Aller au bord de la rivière, c'est bien sûr se ressourcer, le mot est faible mais correspond bien. Également, de pêcher des poissons, mais c'est aussi comprendre le fonctionnement de la rivière, comprendre tous les cycles et toutes les interactions entre ce qui va faire la vie d'une rivière, c'est à partir des tout petits micro-organismes qu'on ne peut pas voir, qui vont nourrir des petits invertébrés, des larves par exemple d'éphémères, des larves de petits papillons qu'on appelle des trichoptères par exemple. Ça peut être tout un tas de petits insectes qui vivent dans l'eau et qui vont donc participer au cycle. Et les rivières sont à ce niveau-là passionnantes à comprendre, à connaître. Et c'est, je dirais, une concentration de ce qui fait en fait notre vie tout simplement dans l'environnement classique.
Est-ce que les insectes des rivières sont sur le déclin comme les autres insectes de
Alors,
terre ?
C'est une grave question parce que la productivité d'une rivière, quand on regarde ce qui nous intéresse, c'est-à-dire la quantité de poissons dans une rivière, ce n'est ni plus ni moins que la conséquence, à l'échelle d'en dessous, de ce que les poissons peuvent manger. Pareil pour les petits insectes aquatiques, la quantité de ces insectes dépend de ce qu'ils ont à manger sous forme de micro-organismes, d'algues, etc. Et tout ce qui peut perturber au départ la vie d'une rivière, c'est-à-dire les polluants, les variations brutales, répétées de niveau d'eau, qui vont assécher les berges, qui vont descendre le niveau de l'eau, tout le temps monter, descendre, ça va perturber la vie de la rivière. Et ce qu'il y a de plus embêtant maintenant, ce sont les micropolluants dont on ne tenait pas compte avant et qui influent beaucoup dans la vie microbienne de la rivière. Tout a un impact. Ça peut aller de tout ce qui est les résidus qui partent à la rivière dans les eaux d'écoulement, dans les eaux pluviales par exemple. Donc tout ce qui est lessivé, les parkings, les routes, les rues des villages qui ne sont pas naturelles et qui transportent évidemment beaucoup de polluants. Ça peut être aussi dans les stations d'épuration des polluants qui ne sont pas captés par les systèmes actuels.
Comme la pilule, par exemple.
Voilà, comme tout ce qui est médicamenteux. Mmh. Alors, les stations fonctionnent plutôt bien. Et nous sommes très attentifs au niveau de notre société de pêche. Et nous avons tissé une relation de confiance, vraiment, avec les gestionnaires des stations d'épuration sur notre territoire. Et cette collaboration, elle est gagnant-gagnant. Gagnant pour les milieux, parce que nous sommes des surveillants de la qualité de ces milieux. Nous sommes vraiment présents tout le temps les pieds dans l'eau et nous allons très vite alerter quand il y a un problème. Et quand il y a un problème, évidemment, les gestionnaires des stations d'épuration vont réagir très vite. Et on peut dire qu'actuellement, on est vraiment dans un cercle vertueux. Les gestionnaires des stations d'épuration, que ce soit des grands groupes ou des régies communales, tout existe sur notre territoire, sont extrêmement sensibilisés à cette responsabilité qu'ils ont sur la qualité des eaux de rejet. Et bien sûr, nous, pêcheurs, on en est gagnants.
Et est-ce qu'on peut parler du barrage ? Est-ce que ça déséquilibre le biotope ?
Les barrages sont un réel grave problème qui existe depuis longtemps pour le fonctionnement des cours d'eau. Alors, il ne s'agit pas de dire qu'un barrage, c'est mauvais, et s'en aller, fermer la porte et demander à ce qu'on détruise les barrages. C'est tellement plus compliqué parce que c'est un problème ancien dont on n'a pas mesuré l'ampleur que ça avait sur l'environnement en général. Quand on a créé les premiers barrages, c'était pour alimenter des moulins, pour alimenter des réseaux de canaux pour l'irrigation des parcelles agricoles. C'était donc pour des usages qui étaient, je dirais, assez légers il y a une centaine d'années. Ensuite, on est passé sur des barrages beaucoup plus gros qui avaient une vocation de production électrique. Et ces barrages ont une particularité, c'est que d'abord, ils tronçonnent la rivière en coupant la continuité écologique. Donc, c'est très embêtant pour les espèces qui migrent sur les cours d'eau et qui très souvent peuvent être des migrateurs lointains qui, par exemple, font leur cycle en mer et montent se reproduire ensuite en rivière. Mais ça peut être aussi des mouvements de poissons comme les truites qui vont frayer en tête de bassin et redescendre après, dans la quasi-totalité de l'année, sur des parcours avals, où ils ont leur habitude de vie. Donc c'est très ennuyeux pour ce mouvement piscicole, mais également les barrages modernes posent un gros problème, c'est qu'ils fonctionnent par des lâchers d'eau qui sont irréguliers.
C'est-à-dire, qui refroidissent voilà, la température.
Alors, exactement. Déjà, ça stocke de l'eau et on la rend à la rivière quand on a besoin de produire de l'électricité. Donc ça fait des coupures d'eau, la rivière baisse, la température change, et d'un coup il y a un afflux massif quand on a besoin d'électricité, d'eau froide parce que c'est le bas du barrage, c'est le fond de la rivière, et le niveau remonte brutalement. Ces marnages, c'est-à-dire ces variations successives de niveau, sont tellement rapides et répétées dans une journée ou dans la semaine ou dans le mois que la vie aquatique n'arrive pas à suivre le mouvement. Petit à petit, ça va appauvrir la rivière. Deuxième autre problème créé par les barrages, c'est que ça bloque la migration des matériaux qui font la vie de la rivière, qui charrient des galets, des blocs qui ont tout simplement été érodés des montagnes, qui vont donc être acheminés, roulés, transformés en sable, en petits cailloux, en petits galets et en gros galets. Ils abritent en fait toute une vie. Et c'est cette vie qui va filtrer l'eau de la rivière et créer la chaîne alimentaire qui va permettre, au bout du compte, la vie des poissons et également de nous, avec de l'eau de qualité. Donc, ces galets, quand ils manquent dans la rivière, c'est quelque chose de très important. Une rivière, elle meurt autant parce qu'on la sèche que parce qu'on a bloqué la migration de ces matériaux. Le problème des barrages, les gestionnaires actuels en sont bien conscients, essaient de pallier à cette problématique en compensant, quand ils peuvent le faire, certains de ces problèmes, mais on ne peut pas tout résoudre.
Vous êtes plutôt optimiste par rapport à l'aspect qualitatif des rivières et de la pêche.
Oui, parce que les sentinelles que sont les pêcheurs, et également bien sûr accompagnés par les pouvoirs publics et par la police de l'environnement, et puis tous les utilisateurs de nos rivières, qui sont de plus en plus attentifs maintenant à la qualité des eaux, font que l'exigence qui émane de toutes ces personnes oblige les gestionnaires de l'eau à être extrêmement pointilleux sur la qualité de l'eau. Le résultat, c'est qu'on a une eau, en tous les cas dans le Verdon, qui est de grande qualité. C'est une eau qui est très utilisée, bien sûr, pour les besoins en eau de la côte. Il faut savoir que l'eau du Verdon est quasi utilisée en totalité avant qu'elle rejoigne l'eau de la Durance pour des usages qui sont anthropiques, liés à l'homme, que ce soit pour l'alimentation, à peu près un tiers de l'eau, que ce soit pour l'agriculture, encore un tiers de l'eau, et pour l'industrie, le dernier tiers. Il ne reste plus grand-chose après. L'industrie utilise beaucoup d'eau également.
Ouais. Tout ça fait... pas vers chez nous.
Alors, dans le bas, en fait, de nos, de nos territoires, tout simplement parce qu'on a...
Ça commencerait vers Vinon.
Voilà, tout à fait, et sur le littoral. Voilà, donc c'est l'eau du Verdon, c'est la même problématique pour la Durance. Alors, ce qu'on essaye de faire, en tout cas pour ce qui concerne notre territoire qui est en tête de bassin, c'est au moins de mettre toutes les billes de notre côté pour qu'on ait une eau de qualité.
Et le canyoning, ça pose problème dans les rivières de fouler les fonds?
C'est complexe. Toutes ces activités d'eau vive, que ce soit raft, canyoning, tout a un impact. Après, il faut savoir mesure garder, c'est-à-dire ne pas charger de façon injuste certains utilisateurs comme les canyonneurs, au-delà de l'impact qu'ils ont. Oui, le canyoning, forcément, à piétiner le fond des rivières, bouleverse un petit peu l'équilibre du fond des rivières. Oui, sauter dans une vasque, ça va déranger les poissons, mais pour autant, ça ne va pas les tuer. Ça va pas les éliminer complètement. C'est pas ça qui va poser le plus gros problème. Le déplacement des pierres, ça va effectivement tuer la microfaune dont on a du mal à mesurer l'impact, mais qui par effet induit à l'échelle au-dessus va montrer un appauvrissement de la biomasse de la rivière. Effectivement, on peut pas dire que c'est une activité favorable, mais l'impact que ça a, il faut être mesuré, c'est pas non plus 90% de la dégradation de la rivière. C'est pas vrai. Il y a d'autres problématiques. La plus grosse des problématiques, c'était par exemple l'extraction des granulats dans le cœur des rivières, comme c'était autorisé jusqu'il y a une vingtaine d'années. Ça, c'était vraiment extrêmement préjudiciable à la rivière. Actuellement, c'est très encadré, donc il n'y a plus de débordement à ce niveau-là. Les pollutions sont quand même assez bien résorbées, en tous les cas en tête de bassin, par le contrôle justement des producteurs de pollution, en particulier les stations d'épuration ou les concentrations humaines, les stations de ski, etc. Donc on est en passe d'arriver à gérer cet afflux de pollution, mais c'est vrai que les activités d'eau vive, ben, quelque part, ça dérange. Mais quelle est la proportion? Je ne pense pas honnêtement que ce soit aussi important que ce qu'on veut bien leur faire porter souvent.